I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a 10 ans, la musique électronique ou dance music balayait de ses voix robotiques et ses distorsions d'ondes l'industrie musicale. Autrefois considérée comme un genre underground, brimée pour ses rave parties, elle est désormais un genre populaire. Ce changement n'est pas le fruit du hasard et surtout, ce passage au mainstream de la musique électronique n'est pas sans conséquences. Je suis Jean-Philippe Louis et vous êtes dans l'épisode 7 de BOM par La Story.
Se rebootait et en fait c'est aussi ça contamine une grande partie des écrans et du son de l'expo, comme s'il y avait une sorte de bug ou de reboot de toute l'expo.
Je suis Jean-Yves Leloup, commissaire de l'exposition électro de Kraftwerk à Daft Punk qui a lieu jusqu'au 11 août 2019 à la Philharmonie de Paris.
Bonjour Jean-Yves Leloup. Commençons par les bases. De quoi parle-t-on quand on parle d'électro ?
Alors l'électro, en fait, c'est un terme très générique qui est surtout utilisé en France et qui désigne aujourd'hui la musique de danse électronique, la dance music électronique que l'on entend dans les clubs, les discothèques, les raves, parties, les festivals en France, mais aussi dans la plupart des pays du monde aujourd'hui, parce que c'est une musique, alors c'est un terme générique et un peu fourre-tout, il faut le dire, mais en tout cas cette dance music électronique, elle triomphe un peu partout dans le monde, à la fois auprès du grand public américain, parfois dans des fêtes ou des concerts, ou des festivals qui rassemblent des centaines de milliers de personnes dans de grands stades, jusqu'à des fêtes très underground pour quelques centaines de personnes avec une musique beaucoup plus expérimentale. C'est une musique qui est présente dans le monde occidental, mais aussi en Amérique du Sud, dans pas mal de pays africains, avec des variations selon les pays, en Asie aussi. Donc c'est vraiment une musique festive qui est aujourd'hui, qui s'est implantée sur l'ensemble de la planète.
En quoi se distingue-t-elle des autres genres musicaux ?
La musique électronique française, elle est assez naturellement internationale, mais comme beaucoup d'autres musiques, vous savez, l'électro, c'est une musique qui est souvent instrumentale, même si elle peut parfois être chantée, bien évidemment, mais c'est une musique qui est beaucoup moins tributaire de ses origines que le serait le rock ou la pop, qui reste quand même souvent d'origine anglo-saxonne, et les anglo-saxons continuent à triompher ou à régner sur le monde de ce qu'on appelle de la pop à travers leur propre musique, alors que de la musique de bien d'autres pays, notamment la France, s'exporte beaucoup plus facilement que la pop, la chanson ou le rock français. C'est une musique qui a toujours eu cette nature très, très internationale ou presque transnationale. Et effectivement, depuis la French Touch, depuis le succès de Daft Punk, de Étienne de Crécy, de Cassius ou de R, qui sont arrivés dans la seconde partie des années 90, aujourd'hui, c'est très facile pour un musicien ou une musicienne française ou un français de s'exporter, à condition que le talent soit là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de parler au reste du monde qu'il y a quelques années.
These are this year's fabulous nominees for Album of the Year.
And now a category full of wildly talented artists who communicated beautifully this past year. These are the nominations for Best Pop Duo or Group Performance.
And the Grammy goes to...
Get Lucky. Lucky.
Random Access Memories, Daft Punk.
Featured artists, Julian Casablancas, DJ Falcon, Todd Edwards, Chili Gonzalez, Giorgio Moroder, Panda Bear.
La musique électronique est peut-être le genre qui s'est le plus adapté aux nouveaux modes de consommation. Alors forcément, quand le streaming a pointé le bout de son nez, les nombreux artistes d'électro capables de composer des morceaux directement dans leur chambre grâce à l'innovation technologique se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont composé seuls, ont publié leurs morceaux seuls et ont créé leur propre communauté, sans ainsi naître de nouveaux artistes comme Adrien Thomas.
Bonjour,
ça va ?
Ça va ?
Ah ouais ?
Excusez-moi, ouais, j'étais en convoi téléphonique,
pas de problème.
C'est sympa ici.
Bon, là c'est le studio.
Voilà.
Trop bien.
Je fais de la musique.
On a le plateau ici. Je vais allumer.
Commençons.
Donc, je m'appelle Adrien Thomas, je suis DJ, producteur, musicien, je suis batteur, je fais de la batterie, je compose mes propres titres, je fais des remixes, enfin voilà, compositeur, producteur, animateur de radio aussi sur Fun Radio. J'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos où j'explique comment je fais mes titres et où j'ai une émission mensuelle dans laquelle je reçois des DJ et j'ai 4 personnes autour de la table avec moi où on parle musique électro et monde de la nuit, monde des DJ, etc., etc. J'ai 2 labels aussi où je sors des titres, des coups de cœur, mes titres aussi, mes propres titres sur mes labels, sur 2 styles différents, un label beaucoup plus house et un label beaucoup plus pop électro, beaucoup plus commercial, Ilo Records et Méchant Garçon. Et puis voilà, on a un projet de lancement de marque de vêtements aussi sur Méchant Garçon. On travaille dessus. Et puis voilà, je tourne tous les week-ends en club.
Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du DJ Boost, c'est parti.
Dans tout ce que vous faites, quelle est la plus grande part de vos revenus?
Alors, en premier, oui, c'est les bookings en soirée, c'est les festivals, les discothèques qui sont des moyens de revenus assez directs. Donc, c'est là où on a un impact qui est beaucoup plus important sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, je dirais la musique. Ça a mis du temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on gagne quand même un petit peu d'argent avec la musique, avec le streaming qui rapporte quand même pas mal d'argent. On fait quelques compilations aussi en partenariat avec d'autres labels où on place nos titres. Donc ça aussi, on a des royalties qui sont assez intéressantes. Et c'est pour ça que je dis, je placerai en deuxième lieu la musique après les soirées en club, parce que voilà, on commence à gagner de l'argent aujourd'hui avec les labels, on est des indépendants, donc ça a mis un peu de temps, mais on est heureux, on commence à gagner de l'argent aujourd'hui avec les labels. Et puis après, je dirais c'est tout le reste, la location, puisqu'on met à disposition aussi les studios ici, donc on a quelques revenus mais qui sont très légers par rapport à tout le reste sur le chiffre d'affaires et sur la vente, puisque je compose la musique, donc il m'arrive de vendre des titres aussi à des artistes donc on a aussi, on parle de SACEM à côté, puisqu'on a ce qu'on appelle des points, des pourcentages de revenus sur les diffusions radio. J'ai produit voilà, quelques trucs pour la télé qui sont utilisés quotidiennement sur des émissions. Donc ça permet aussi, mais ça c'est plus à titre personnel, c'est pas pour la société. Et puis ça, ce que je vais faire à côté, ça va être pour la société, ça va être pour l'investissement de tous les projets qu'on a ici.
Merci Adrien Thomas. La démocratisation de la musique électronique a eu des conséquences mondiales, ultra médiatisées. L'offre s'est envolée, mais également la demande. Et les salles historiques doivent maintenant rivaliser avec les plus grandes discothèques du monde entier. En 2016, 71% de l'économie de la musique électronique provenait du chiffre d'affaires des clubs, comme le mythique Rex, à Paris.
Oui, allô ?
Bonjour.
Bonjour, je me présente, je suis Fabrice Gadeau, donc je suis le directeur du Rex Club à Paris. Bah, le Rex Club, c'est un petit peu la maison de la musique électronique en France, un petit peu que là tout a commencé en 88, donc au tout début de cette musique. Christian Pollet, qui était le directeur de cet établissement à l'époque, a décidé d'ouvrir un petit peu les portes à cette musique. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur au sein de l'établissement jusqu'à ce qu'en 95, le Rex devienne uniquement un club de musique électronique. Et c'est ce qui nous permet effectivement, avec toute cette histoire et cette longue histoire qui a maintenant plus de 30 ans, et d'être le club numéro 1 en France et d'être quasiment le seul club qui a été classé pendant plus de 20 ans dans les 100 meilleurs clubs du monde au niveau international.
La démocratisation de la musique électronique a eu quelles conséquences pour vous au Rex.
Est-ce que c'est plus dur d'avoir les artistes? Oui, bien sûr, parce que l'offre étant effectivement maintenant internationale, et le nombre de semaines, lui, n'ayant pas augmenté, pour avoir un artiste un vendredi ou un samedi, ça laisse... C'est-à-dire, il y a bien plus de 104 clubs dans le monde, et il n'y a que 52 semaines, donc forcément, le cachet des artistes s'envole en fonction du nombre de demandes. Hein. C'est un rapport d'offre et de demande. Et forcément, les artistes sont de plus en plus chers. Et c'est vrai que l'équilibre économique des clubs est de plus en plus difficile à tenir au fait de l'explosion des cachets. Du fait que les artistes ne gagnent plus d'argent avec les disques, bien évidemment, tout l'argent qu'ils gagnent maintenant provient des tournées et de leurs prestations en salle. Et donc forcément, ils essayent de gagner un maximum sur ces prestations pour continuer à vivre, j'allais dire aussi. Et c'est vrai que du coup, les clubs ont une pression financière qui est assez importante de la part des artistes, du fait de la difficulté de les obtenir et du fait de la demande sans cesse plus importante sur ces artistes.
Du coup, on ne peut plus faire que de l'électro, il faut absolument s'élargir.
Bah écoutez, comme on l'a toujours fait, hein, j'allais dire, on va suivre un petit peu le fil de l'actualité musicale et essayer de ne pas se tromper dans nos choix, de manière à rester dans les tendances appréciées du public, et de manière à continuer à remplir le club et garder notre position de club numéro un. Donc bien évidemment, il y a une ouverture sur l'urbain, par exemple, qu'on est en train de mener petit à petit, pour essayer effectivement aussi de diversifier un peu notre offre, parce que bon, c'est vrai qu'on a un peu fait aussi en 30 ans les tours de la musique électronique. Et là, il n'y a pas réellement un nouveau courant, il n'y a pas une nouvelle vague qui provoque, un engouement. C'est vrai que l'urbain, comme vous le disiez, est actuellement la musique tendance et la musique qui marche bien. Et en plus, il y a un urbain qui est un peu électro quand même maintenant. Il y a des choses à faire dans ce domaine-là et on est en train justement de chercher, de creuser un peu dans l'urbain pour essayer de trouver un peu les tendances de demain et essayer de continuer à rester... avec cette position de leader sur le marché du clubbing français.
Faisons le point. Olivier Pellerin, vous êtes journaliste et consultant de la musique. Vous avez réalisé plusieurs enquêtes sur le marché de la musique électronique. C'est un marché en tension.
Elle est sous tension parce que, déjà, on peut revenir un peu en arrière. Il y a 10 ans, elle n'était pas sous tension du tout. C'était un milieu qui était, en tout cas en France, qui manquait de lieux pour se développer, pour s'exprimer, et ça a complètement changé en une dizaine d'années. Ça a commencé par Paris, et puis Lyon, et aujourd'hui c'est Marseille, c'est Lille, c'est Nantes, c'est Bordeaux, il y a des festivals et des clubs partout. Et en parallèle, au-delà de l'électro, il y a eu une crise du disque, donc tous les artistes, y compris en électro, se sont reposés uniquement sur le live pour vivre. Et à un point que, comme avec aussi le streaming, le public a tendance à consommer la musique très très vite et à avoir des goûts très versatiles, les artistes se sont mis à essayer de rentabiliser leurs prestations sur scène le plus vite possible. Et donc à monter les prix le plus vite possible, sans forcément au bout d'un moment, comme il y a aussi, c'est un marché international, sans forcément au bout d'un moment faire attention à l'écosystème qui les accueillait, aux lieux et à l'économie des lieux. Qu'un club qui reçoit 800 personnes, c'est pas la même chose qu'un festival qui reçoit 30 000 personnes sur un week-end. Et il y a une espèce de lissage des cachets, mais à la hausse. C'est-à-dire que tous les artistes voulaient partout avoir le plus gros cachet. Et les clubs qui, eux, sont la base de cette culture et qui font ça tous les week-ends depuis des années et à l'année, se sont retrouvés à devoir payer les mêmes tarifs que les festivals qui, eux, font ça une fois par an avec des sponsors et ont donc pas les mêmes enjeux.
Qu'est-ce que ça a changé, le streaming, pour l'électro ?
Alors, avant de changer les choses pour les artistes, ça a changé les choses du point de vue de l'auditeur. C'est-à-dire que les vieux amateurs de techno, ils allaient courir les disquaires pour essayer de se faire une culture en achetant des vinyles, en se les échangeant, etc. Aujourd'hui, si on a 20 ans et qu'on est passionné de cette musique-là, en 2 ans, on peut à peu près se faire la même culture qu'un passionné d'il y a 20 ans qui prenait des années et qui éventuellement allait même voir dans des villes étrangères ce qui se faisait, etc. Donc la musique, elle est beaucoup plus accessible et les modes passent beaucoup plus vite. Donc du point de vue des artistes, d'une part, c'est bien que le streaming fonctionne parce que ça leur fait à nouveau une possibilité de vendre leur musique, même si les revenus ne sont pas les mêmes qu'à l'époque du disque. À l'inverse, on connaît le fonctionnement des playlists, le fait qu'il faut aujourd'hui être en tête des playlists pour essayer de surnager dans ce marché où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, faut toujours être actif, faut toujours avoir de l'activité, faut toujours poster des morceaux, des vidéos. Donc, ça change, ça met aussi une pression, justement, et avec une temporalité qui est beaucoup plus serrée. Faut être actif tous les mois. On peut pas se permettre de dire, je sortirai un album dans 2 ans et entre les deux, je me fais oublier. Ça, c'est des fonctionnements pop, chansons, bon, qui déjà changent pour la pop, mais qui ne sont pas valables du tout pour les musiques électroniques, d'autant plus que c'est des musiques dans lesquelles les morceaux n'ont pas les mêmes formats. Un morceau, ça peut faire 15 minutes, il peut ne pas y avoir de paroles, donc ça ne se passe pas à la radio, ça se passe effectivement sur les plateformes de streaming, et même pas toujours sur Spotify et Deezer, parfois c'est sur SoundCloud et Mixcloud, qui sont plus des plateformes où on va passer des mix et des morceaux plus longs. Donc il y a pour les artistes, il y a un besoin d'être présent en permanence, et ça se fait aussi autant sur les morceaux qu'on peut mettre en streaming que dans les clubs tous les week-ends. C'est une musique qui existe vraiment autant par l'enregistrement que par le live.
Au final, on a l'impression que la musique électronique est tellement vague qu'il n'y a pas une économie de la musique, mais plusieurs économies.
Alors, je crois qu'il y a une particularité de la musique électronique, c'est qu'elle est extrêmement diverse. Je ne pense pas que le streaming l'uniformise. Il y a plein de... À l'inverse, c'est très atomisé et c'est un truc qui est très palpable sur le marché français. Il y a vraiment... On peut le séparer en deux. Il y a toute la musique commerciale qui fonctionne, hein, de la dance music, voilà, qu'on écoute à la radio, qu'on écoute un peu moins en live parce que les artistes sont très chers et qu'en France, on n'a pas toujours encore les moyens de se payer ces artistes-là, notamment en raison de la loi E20 qui fait que les gros festivals n'ont pas la possibilité de se financer par des marques d'alcool et que donc il n'y a pas les mêmes tailles que sur les pays voisins en Europe. Et à l'inverse, il y a les musiques qu'on dit underground, la house, la techno, la musique électronique des origines, qui est pleine d'artistes hyper actifs, qui sortent beaucoup de disques et qui jouent beaucoup en club, mais qui sont plus petits. Et les deux, il y en a des qui arrivent à des niveaux de notoriété assez importants. Par exemple, on pense à Arnaud Rebottini, que le grand public a pu connaître parce qu'il a eu son César pour la musique du film 120 battements par minute. Mais voilà, c'est des artistes qui sont très actifs, qui sont très créatifs, mais qui sont moins connus que le grand public qu'un David Guetta. Et c'est alors que d'ailleurs c'est marrant, David Guetta et Arnaud Rebottini, ils ont commencé ensemble, ils se connaissaient, hein, mais ils ont pris des chemins différents. Et c'est des milieux qui, c'est deux pratiques musicales, deux écoutes, deux manières de produire qui se côtoient pas vraiment en fait. Il y a une espèce de dichotomie, une opposition comme ça en France.
Merci Olivier Pellerin. La musique électronique pose un autre problème, celui des droits d'auteur. Entre les reprises des morceaux, les samples et les mix de chansons d'autres artistes en discothèque, une question se pose: comment rémunérer les artistes de musique électronique quand leurs morceaux sont joués ou composés par eux-mêmes, mais également par d'autres? Qu'en dit la société de gestion des droits d'auteur, la SACEM?
L'Olivier Lecovec. Je travaille à la SACEM et je suis responsable de la documentation et de la répartition, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le dépôt des œuvres musicales à la SACEM et ensuite du paiement des droits aux différents créateurs. C'est un des challenges principaux de la SACEM, mais aussi de l'ensemble des sociétés d'auteurs qui sont face à des exploitations de ces musiques dans les clubs, dans les festivals, par exemple. C'est d'identifier, c'est vrai, non seulement le créateur, mais aussi les œuvres qu'il utilise et qu'il exploite. Alors déjà, celui qui crée, le DJ, parce que derrière certains noms de DJ, il n'est pas toujours facile de savoir qui a fait quoi, quel est le véritable nom. Or, nous, pour que nous puissions avoir une démarche complète, et pour payer quelqu'un, il faut qu'on arrive à l'identifier. Donc, la première difficulté, c'est de savoir qui est qui. La deuxième difficulté, c'est que ce sont souvent des sons, des boucles, des œuvres qui peuvent être relativement courtes et qui sont agrégées les unes aux autres au cours d'une soirée ou dans un set. Donc, on fait maintenant appel à des technologies qui ont prouvé leur qualité. C'est la technologie d'identification à partir de l'empreinte sonore de ces différents éléments.
C'est un peu comme un Shazam glissé sous l'appareil d'un DJ, par exemple. À quoi ça ressemble?
Alors, on pourrait dire que ça, c'est un petit peu comme un Shazam. Mmh. Ça n'est pas véritablement glissé, puisque ce sont des choses qui sont faites en toute transparence. Nous faisons appel à un prestataire qui est spécialisé dans les musiques électroniques, qui s'appelle DJ Monitor. Et ce prestataire a une technologie, un boîtier qu'il branche sur la console, donc en toute transparence, dans le club ou dans les festivals. Il récupère les sons et par ce fingerprinting, ses empreintes sonores, il a un travail d'identification pour ensuite pousser vers la SACEM les éléments qu'il a identifiés avec le maximum de formations qui nous permettront de payer les bonnes personnes pour les bons titres au bon moment.
L'électro était un marché de niche. Aujourd'hui, elle est un marché sous tension, avec un trop-plein d'acteurs. Certains espèrent que la bulle va se dégonfler. Les chiffres semblent aller dans le sens d'une stabilisation. Selon une étude du Sommet international de la musique à Ibiza publiée cette année, la valeur de l'industrie mondiale de la musique électronique a diminué de 2% en 2018. La part de la dance music aux États-Unis face aux autres musiques a diminué. Mais il y aurait une raison. De nombreuses chansons à succès, a priori électro, sont désormais classées en R&B ou en pop. Comme si l'électro mainstream disparaissait pour se mouvoir dans d'autres genres. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans la musique électronique, 3 des 5 artistes les plus bookés en festival sont des femmes. Dans le prochain épisode de BOM, nous parlerons justement de la place des femmes dans l'industrie de la musique. Cet épisode a été réalisé avec Adèle Itel. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner à La Story et à BOM sur toutes vos plateformes de podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.